Tout le monde. Écoutez, je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin. C'est avec grande joie, et en même temps, c'est un signe que Dieu a restauré votre Église. Moi, ce matin, c'est pour ça que je remercie le Seigneur, parce qu'il vous a restauré. Il a restauré votre bâtiment, mais il a restauré également votre Église spirituelle, chacune de vos âmes. Puis moi, je veux remercier le Seigneur pour ça. Et si je suis ici, bien, c'est justement parce que Dieu a fait ce grand miracle-là dans chacune de vos vies, puis pour l'Église du Cap de la Madeleine. Je remercie la direction de me donner ce privilège de prendre la parole à chaque fois que je rouvre la parole. C'est vraiment un privilège, puis je vous remercie de me l'offrir ce matin. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Un texte qu'on connaît très bien, où ce que Jésus accomplit un miracle extraordinaire. Il va apaiser la tempête. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Le vent et la mer obéissent au maître. Probablement que vous avez déjà entendu plusieurs messages sur ce passage-là, et l'interprétation de ce passage-là revient à peu près toujours au même. La tempête est comparée aux épreuves qu'on a dans chacune de nos vies. Même si Dieu semble dormir dans nos épreuves, il est pourtant là. Il faut agir comme les disciples, crier à Dieu dans nos épreuves, et le Seigneur Jésus a la puissance pour nous délivrer de nos épreuves. Moi, ce matin, je veux aller avec une autre interprétation. Je ne veux pas blesser personne, je ne veux pas ébranler les colonnes de la vérité, mais pour moi, personnellement, je vois une autre interprétation dans ce passage-là. Je vais vous donner quelques arguments pour vous dire pourquoi je ne pense pas, ou je ne l'interprète pas le passage de cette manière-là. Tout d'abord, je trouve que cette interprétation-là ne s'accorde pas avec le contexte du chapitre 4 de Marc. Jésus, chapitre 3, vient d'être rejeté. Les Juifs viennent de dire, « Non, tu n'es pas le Messie, puis les miracles que tu fais, c'est par Belzébul. » Et tout de suite après, au début du chapitre 4, Jésus se met à prêcher en parabole, puis les disciples vont le voir, puis il dit, « Pourquoi tu prêches en parabole? » Puis Jésus va leur dire, pour que eux, les Juifs, ne comprennent pas, de peur même que leur péché leur soit pardonné, qu'ils ne se convertissent. Mais à vous, en parlant des disciples, le mystère du royaume de Dieu vous sera révélé. Je trouve également que l'interprétation de la tempête ne cadre pas avec tout le livre de Marc. Tournez avec moi dans Marc chapitre 1 et on va voir, c'était quoi le but de Marc lorsqu'il écrit cet évangile-là? Il commence tout de suite à partir du chapitre 1 et les versets 1 en nous disant « Voici de quoi je vais vous parler dans mon évangile. » Il dira ceci, « Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. » Verset 3, « Il est le Seigneur. » Et quand on regarde ce que Jean-Baptiste dira de lui au verset 7, il prêchait disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. » Dans le fond, c'est pas compliqué. Marc veut nous révéler l'identité, la vraie identité de Jésus. C'est le Messie qui vient de Dieu pour mourir sur la croix. Je trouve également que le reproche, le cri de désespoir, ou ce qui a toujours été considéré comme un cri de désespoir de la part des disciples à Jésus, pour moi, ce n'est pas un cri de désespoir. Si on le regarde comme faux, c'est un reproche qui est fait à Jésus. La tempête se lève, nos matelots expérimentés ne sont pas capables de rien faire, et verset 38, ils disent « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Ils ne demandent pas de l'aide à Jésus. Ils ne disent pas « Fais quelque chose ». Ils disent « Comment ça se fait que tu ne fais rien? » Littéralement, c'est ça qu'ils lui disent. « Comment ça se fait que tu ne fais rien? » Ça ne te dérange pas qu'on périsse? Ça ne te dérange pas qu'on meure? Troisièmement, la réprimande que Jésus leur fait en leur disant « Et où votre foi? » Comment ça se fait que vous n'avez pas de foi encore en moi? Pas compliqué, les disciples ne reconnaissent pas encore qui est véritablement le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas encore compris que c'est le Messie, ils n'ont pas encore compris qu'il vient de Dieu, ils n'ont pas encore compris qu'il y a une mission particulière. Puis c'est normal qu'ils n'aient pas la foi en lui. Est-ce qu'on peut reprocher à un païen, est-ce qu'on peut reprocher à notre voisin qui ne connaît pas Dieu de ne pas avoir la foi en Dieu? Absolument pas. Il ne connaît pas. Je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir de foi. Le reproche qui est fait ici, à Jésus, de Jésus aux disciples, « Vous n'avez pas encore la foi en moi parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas encore qui je suis réellement. » Quatrièmement, c'est intéressant lorsqu'on regarde la réaction des disciples une fois que la tempête est apaisée. Verset 41. Lorsque Jésus apaise la tempête, ils furent saisis d'une grande frayeur. Littéralement, c'est « ils craignirent d'une grande crainte ». Comment expliquer à quelqu'un, « Écoute, tu passes par les épreuves, crie à Dieu, puis une fois que tes épreuves vont être passées, tu vas avoir encore plus peur qu'avant. » Ça ne tient pas la route, là. Puis si j'interprète le passage comme quoi que Dieu nous libère de nos épreuves, je suis obligé d'y aller avec cette conclusion-là. Les disciples ont plus peur une fois que la tempête est apaisée qu'avant. Ils craignirent d'une grande crainte. Et finalement, ce passage-là pointe vers la confession de Pierre au chapitre 8, verset 29. Lorsque Jésus pose la question à ses disciples, « C'est qui que les gens disent que je suis? » Ben, il y en a qui disent que tu es un tel, d'autres qui disent que tu es un tel, puis Pierre va s'exclamer en disant, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » À ce moment-là, Pierre a réellement saisi et a compris qui était le Seigneur Jésus. Mais pas encore. Il ne l'a pas encore compris jusque-là. Et ce passage-là pointe vers cette confession-là. Jésus est donc en train de révéler son identité. Il n'est pas en train de dire aux disciples, « Quand vous allez vivre des épreuves, je vais pouvoir vous aider. » Il est en train de se révéler en tant que Fils de Dieu. Ce qui est intéressant même, c'est que Marc est le seul à placer ce passage-là après les paraboles. On le retrouve dans Matthieu 8, les paraboles sont au chapitre 13. On le retrouve également dans Luc 8 et les paraboles vont être après. Puis il n'y avait pas de meilleur passage, personnellement, il n'y avait pas de meilleur passage pour que les disciples commencent à se poser la question. Et c'est cette question-là qu'ils se posent à la fin. Mais qui est donc celui-ci? Les disciples ne se posent pas la question, comment ça se fait que la tempête est apaisée? Ils ne se disent pas, mais comment il a fait? Non, qui est celui-ci qui vient d'apaiser la tempête? Et tout le passage est dirigé vers cette question-là des disciples. Qui est celui-ci? Et Jésus, après, va commencer à répondre. Tout le chapitre 5 va servir de réponse. Le miracle de Gadara, Légion, la divinité de Jésus qui est démontrée. La fin du chapitre 5, cette femme qui est atteinte d'une perte de sang, la jeune fille de Jairus qui va être ressuscitée, la souveraineté de Jésus qui va être démontrée. Et tout ça sert à répondre à cette question-là, mais qui est donc celui-ci? De quelle nature, de quelle espèce, de quel genre est celui qui vient de calmer la tempête? Le reproche que Jésus fait, le manque de foi que Jésus reproche aux disciples, démontre qu'ils ne le connaissent pas pleinement. Les quelques miracles que Jésus a faits jusqu'à maintenant n'ont pas permis de prouver qui il était. Je crois sincèrement que ce moment-là, Jésus veut frapper un grand coup. Il veut frapper un coup de circuit. Pour en arriver à ce que les disciples se posent la question, quel est donc celui-ci? Pour moi, personnellement, il s'agit donc d'un passage qui nous révèle l'identité du Seigneur Jésus. C'est un passage même qui va nous relever son identité et l'emphase va être mise sur la sainteté de Jésus. Paul a très bien exprimé cette pensée-là en Colossiens 2:9 lorsqu'il a dit ceci, « Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ possède pleinement la nature divine et tous ses attributs. Les attributs de Dieu n'ont pas été distribués aux hommes, mais en Jésus-Christ, ils étaient tous présents. » Plutôt donc qu'un passage qui nous montre la délivrance que Dieu accorde dans l'épreuve, et je ne dis pas que Dieu ne fait pas ça. Il le fait. Mais ce passage-là ne nous enseigne pas que Dieu délivre dans l'épreuve. Il nous enseigne que nous appartenons à un Dieu qui est saint. Quel est donc celui-ci? De quelle nature, de quelle espèce, de quel genre il est? Eh bien, il est saint. R.C. Sproul, dans le livre « The Holiness of God », a dit ceci, puis je vais lire juste le premier paragraphe parce que l'heure avance très vite. Il a dit ceci, « Nous ne savons pas ce qu'est le christianisme jusqu'à ce que nous adorions Dieu et que nous l'aimions pour ce qu'il est et non seulement pour ce qu'il donne. » Après avoir fait cette prédication-là, étudié ce passage-là, j'ai essayé de mettre en pratique ce premier paragraphe-là. C'est facile de dire merci au Seigneur, c'est facile d'adorer Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il donne, les expériences qu'il nous a accordées, la délivrance qu'il nous a accordée. C'est facile. Mais de l'adorer, de le remercier pour ce qu'il est dans son essence. Je vous dis, après une journée, je m'arrachais les cheveux de sa tête, je n'étais plus capable. Je ne savais plus quoi dire. Parce que c'est bien plus facile de dire, je te remercie Seigneur pour mon travail, je te remercie Seigneur pour mes enfants, je te remercie parce que tu as fait ça. Merci parce que tu pourvois, c'est facile. Mais pour ce que tu es, on n'est pas habitué à ça. Et c'est ce que dit Sproul. Nous n'avons pas expérimenté ce qu'est le christianisme tant qu'on n'aura pas commencé à adorer Dieu pour ce qu'il est, dans son essence même. Qu'est-ce que ça signifie être saint? Qu'est-ce que ça signifie la sainteté de Dieu? Écoutez, j'ai fait un sondage de 4 personnes, donc, mais c'est concluant parce que les 4 ont donné la même réponse. Donc, j'ai 100%. J'ai demandé à 4 personnes, c'est quoi pour toi la sainteté de Dieu? Et les 4 m'ont affirmé connaître la sainteté de Dieu en disant, c'est parce que Dieu est pur, il n'y a pas de mal en lui, il est sans péché, c'est vrai. Mais la sainteté de Dieu vers où je veux vous amener ce matin, c'est l'autre côté de la médaille. On connaît cette sainteté de Dieu-là. On connaît le fait qu'il est pur, qu'il est sans mal, qu'il est sans péché, puis qu'il n'y a rien de mauvais en lui. C'est intrinsèque en Dieu, s'il n'y a rien de mal. On connaît cette pensée-là. Mais l'autre bord de la médaille, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire sur lequel je ne m'étais jamais arrêté, parce que j'aurais répondu exactement ça moi aussi. Mais l'autre côté de la médaille, il brille d'une manière extraordinaire. La sainteté de Dieu, je veux seulement dire ceci, c'est un des seuls attributs essentiels de Dieu qui n'existe pas dans l'homme. Si vous pensiez être saint ce matin, je m'excuse, mais je vous dis non. Puis moi non plus. Il n'y a personne qui est saint à l'exception de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est ce qui sépare Dieu de tous les êtres vivants. Et comme je disais, c'est beaucoup plus que sa perfection ou sa pureté, mais c'est également sa transcendance. Dans son être lui-même, dans son être personnel, dans ce que Dieu est, il est saint. En réalité, c'est la manifestation de son mystère de splendeur qu'on n'est pas capable de comprendre, qu'on n'est pas capable de réaliser pleinement. C'est cette infinie majesté qui nous dépasse. Il y a quelqu'un qui a lu ce matin que Dieu fait de grandes choses. Et la suite du verset, c'est qu'il n'y en a aucun de semblable à lui. Il est unique. Il est le seul. Il est le seul de sa gang. Dans le livre « Introduction à la théologie » de Paul Hens, le sens de base de sainteté, c'est d'être mis à part, d'être séparé. Et c'est ce que Dieu est. Dieu est mis à part. Il est séparé de toute créature parce que lui seul est saint, comme lui peut l'être. Et la sainteté de Dieu, elle imprègne tous les autres attributs. Si Dieu n'est pas saint, il n'est pas amour, il n'est pas compassion, il n'est pas bonté, etc., etc., etc. Comment Dieu a pu nous aimer pour envoyer son Fils mourir sur la croix s'il n'est pas unique? C'est parce qu'il est unique, c'est parce qu'il est seul à être comme il est qu'il a pu envoyer son Fils mourir sur la croix. Sinon, c'est impossible. Ça prenait un être unique. Et la sainteté de Dieu a deux sens. Le sens éthique, celui qu'on connaît tous, Dieu qui est séparé du mal, la pureté majestueuse de Dieu, de Lévitique 2, versets 44 à 45. Psaume 2, 4 à 6, Dieu n'a aucun lien avec le mal. Ce côté-là, on le connaît. Je vais m'attarder à l'autre. Son sens transcendant. Dieu qui est distinct de toutes les créatures. C'est plate à être seul de sa gang. Il n'y a personne qui va être rejeté, il n'y a personne qui va être tout seul de sa gang, mais Dieu l'est. Il est le seul à avoir cette nature-là, il est le seul à être comme il est. Il est saint, il est mis à part. Il est exalté dans sa majesté divine. Ça indique que Dieu est absolument distinct de toutes ses créatures, qu'il est au-dessus de tout. Une majesté infinie. Dans Exode 15, verset 11, nous lisons ceci. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Il n'y a personne qui est comme lui. Il est le seul à être comme ça. Jusqu'à maintenant, je voudrais vous inviter, puis je l'ai glissé un peu au travers de la prêche. Vous savez, je trouve ça vraiment malheureux que toutes nos louanges, que toutes nos adorations qu'on fait, c'est toujours à cause de ce que Dieu a fait pour nous. C'est toujours à cause de ça. C'est vraiment dommage. Si Dieu, comme si, parce qu'il ne nous avait rien accordé, il ne méritait pas l'adoration. Rappelez-vous que dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent le Seigneur Jésus. Puis qu'est-ce qu'il avait fait comme œuvre? Aucune! Il n'avait fait aucune œuvre à ce moment-là. Mais les mages ont reconnu en lui qu'il était divin, qu'il était saint. Ils l'ont adoré. Essayons, frères et sœurs, à partir de ce matin, puis vous allez voir, c'est un exercice extrêmement difficile, d'adorer Dieu jour après jour, non pas juste pour qu'est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il nous accorde, qu'est-ce qu'il fait pour nous, mais pour qu'est-ce qu'il est dans son essence même, dans ses attributs. Vous allez voir que c'est plus dur d'adorer Dieu pour sa bonté, parce qu'il est bon, que de donner des exemples de bonté. Puis malheureusement, on dirait que dans nos églises, on a toujours été amené à adorer Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait, et non pas juste pour qu'est-ce qu'il est. Essayons, demandons à Dieu de nous aider, de faire cet exercice-là dans nos vies. Puis vous allez voir que notre connaissance de Dieu, notre façon de voir ce qu'il est en réalité va changer. Parce qu'on ne verra plus juste un Dieu maintenant qui pourvoit, qui donne, qui fait des choses pour nous, mais on va le voir dans son essence même, dans sa personne, dans ce qu'il est en réalité. La sainteté de Dieu, c'est tellement important, c'est tellement grand, qu'à deux reprises dans la parole de Dieu, on a cette expression-là, « saint, saint, saint ». Ésaïe 6 et Apocalypse chapitre 4. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression-là? Pour en démontrer donc l'importance et la réelle valeur de la sainteté de Dieu, Ésaïe et Jean ont été témoins de cette sainteté. Ils ont été témoins de la sainteté de Dieu. Premièrement, Ésaïe, dans sa vision décrite au chapitre 6, fut le témoin des séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint ». Et Jean, qui eut la vision du trône de Dieu, il est témoin des êtres vivants qui crient, eux aussi, « Saint, Saint, Saint ». Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression-là? Comment la placer aujourd'hui, en 2016, l'expression « Saint, Saint, Saint » ? Premièrement, il y a une théorie qui veut que on dit que Dieu est saint, saint, saint en rapport avec la Trinité. C'est un Dieu qui est trois fois saint, parce que c'est un Dieu unique en trois personnes. Je ne rentrerai pas dans la doctrine de la Trinité. Puis on a des textes qui nous le prouvent. Jésus est le saint en Actes 3, 14. Père saint dans Jean 17, verset 11, cette prière que Jésus fait à son Père. Puis on a évidemment l'Esprit saint dans Jean 14, verset 26. Et ça, pour nous, aujourd'hui, en 2016, c'est facile parce qu'on a le livre au complet. On a la pleine révélation, la doctrine de la Trinité, on la connaît. Elle a déjà été enseignée, déjà prêchée, on sait de quoi on parle. Donc, c'est facile de penser que Saint, 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 c'est un Dieu en trois personnes qui est saint. Mais moi, je veux qu'on se mette dans les sandales d'Ésaïe. Ésaïe, là, quand il voit ça, là, Saint, 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 là, il peut-tu penser sincèrement à la Trinité? Lui, il n'a pas la pleine révélation. Il n'y a pas de livre théologique de Paul Hans qui décrive la Trinité. Ce n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'Ésaïe a pu penser? À quoi Ésaïe? Qu'est-ce qui est venu à son esprit quand et entendu l'expression « Saint, Saint, Saint ». Eh bien, il faut savoir que c'est une triple répétition, puis c'est un procédé qui était courant dans l'Ancien Testament chez les Juifs. Jérémie 22, 29 et Ézéchiel 21, verset 27, on voit cette triple répétition-là. La triple répétition, elle est donc emphatique. C'est pour mettre l'emphase sur quelque chose de bien précis. Lorsqu'Ésaïe entend l'expression « Saint, Saint, Saint », il ne pense pas au Père Saint, au Fils Saint, au Saint-Esprit. Il se dit « Dieu est réellement Saint ». Si les anges crient « Saint, Saint, Saint », c'est qu'il est véritablement Saint. Il y a une emphase qui est mise sur la sainteté de Dieu. Ça suggère également une sainteté complète, une sainteté parfaite, absolue, dans laquelle il ne manque absolument rien. Il s'agit d'exprimer avec force et avec passion la sainteté suprême de Dieu. Puis peut-être pour faire une comparaison facile qu'on pourrait comprendre, c'est comparable au « en vérité » du Seigneur Jésus dans les Évangiles. Remarquez, quand le Seigneur Jésus commence sa phrase par « en vérité, je vous le dis », ce qui s'en vient, c'est intense, là. Chaque parole de Jésus est intense, là, OK, on s'entend. Mais quand sa phrase commence par « en vérité, je vous le dis », écoutez, parce qu'il s'en vient, c'est la vérité. Quand Ésaïe entend les anges sur le trône crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », c'est une emphase qui est mise sur un des attributs de Dieu, dans le sens qu'il est saint. Puis ça ne peut donc pas faire seulement référence à sa pureté, mais plutôt à son caractère unique, au fait qu'il est le seul de sa nature. Comment la sainteté se retrouve dans notre passage? J'ai démontré que ce n'était pas une tempête apaisée, nos épreuves. Je vais vous montrer maintenant, essayer de démontrer maintenant, comment on voit la sainteté de Dieu dans ce passage-là. Premièrement, à cause de la double nature de Jésus-Christ. Pourquoi préciser qu'il dort sur le coussin? Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir que Jésus dort sur le coussin. Le Saint-Esprit a poussé Marc à l'écrire pour qu'on réalise que Jésus était pleinement homme. Ce passage-là commence au verset 35 et Marc place le contexte, là. Ce même jour sur le soir, qu'est-ce que Jésus a fait toute la journée? Il a prêché en parabole. Toute la journée, il a prêché. Tout le reste du chapitre 4, là, c'est des paraboles, puis quand on regarde avec Matthieu 13, il y en a encore beaucoup plus. Mais le texte nous dit que toute la journée, Jésus a prêché. Et là, il est rendu le soir, puis il dit à ses disciples, on va traverser la mer, on s'en va de l'autre bord, c'est normal qu'ils dorment. C'est normal. Probablement parce que je vieillis, moi, après trois quarts d'heure de prêche, je commence à être brûlé. Probablement parce que je vieillis. Je m'imagine Jésus toute la journée. Toute la journée. Puis là, ici, on est bien, tu sais, à l'air climatisé. C'est lui, là, c'est au gros soleil. Puis là, les disciples qui viennent le voir constamment. Puis comment ça se fait ci? Puis ils posent des questions. Puis là, les gens qui l'entourent. Puis c'est normal qu'il dorme sur le coussin. On n'a aucun reproche à lui faire. Il a prêché toute la journée. Sa nature humaine. Et sa nature divine, il apaise une tempête. C'est extraordinaire, ce miracle-là. On a des pêcheurs expérimentés, des matelots qui connaissent ça, la mer, là. Je veux dire, c'est de là que Jésus les a sortis. Ça prenait une grosse tempête pour les lui faire peur comme ça, là. Incapable de rien faire. Jésus se réveille, se lève, menace le vent et la mer, silence, tais-toi. Et, après plusieurs heures de clapotis, le vent... Non. Instantanément. J'ai jamais vécu de tempête sur une mer et j'espère ne jamais en connaître. Mais je sais une chose, c'est que ça ne s'arrête pas comme ça. Là. C'est des heures et des heures. Même quelqu'un me disait que ça peut durer des jours après que la tempête soit finie, que la mer brasse encore. Jésus, c'est en un instant. Silence, tais-toi. Tout se calme. Je comprends les disciples d'avoir peur. Sérieusement, je les comprends. Et c'est qui celui-là? C'est un spécial. Là. Je comprends vraiment comment ils réagissent. Mais on voit la double nature de Jésus, son côté humain et son côté divin. Il est donc à la fois homme et il est à la fois Dieu. Il y a juste Dieu qui peut être de même, là. Juste lui qui peut faire ça. Philippiens 2,7 nous dit, « Mais il s'est dépouillé ou humilié, lui-même en prenant. » Il a ajouté quelque chose. Philippiens 2,7 ne nous dit pas que Jésus a mis des choses de côté. Non, 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 ça nous dit qu'il a pris des choses. Et qu'est-ce qu'il a pris? C'est la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ceci. Dans le fond, Jésus est devenu ce qu'il n'avait jamais été, c'est-à-dire un homme, tout en restant ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire Dieu. Paul Hans écrit ceci. Des choses comme manœuvrer des bateaux de pêche, payer des impôts, parler avec différentes personnes, transpirer du sang, pleurer en raison de l'abandon sur la croix reflètent toute l'humanité de Christ. Pourtant, il n'était pas un homme ordinaire. Il pardonne les péchés, il a autorité sur les éléments naturels, il révèle la gloire de Dieu, puis toutes ces choses le placent dans une classe à part. La sainteté de Dieu nous est révélée parce qu'il a la double nature. Deuxièmement, on va s'attarder un peu plus à cette tempête apaisée. Dans Genèse 1, le Christ pré-incarné fixe les limites de la mer rien que par une parole. Ici, il se sert d'un ordre très simple pour retenir des vagues et rétablir le calme sur le lac. Silence, tais-toi. C'est la seule chose qu'il fait. Silence, tais-toi. Le terme « silence » vient du même mot grec que dans Marc 1, verset 25, pour chasser un démon. Donc, les puissances spirituelles obéissent aux ordres de Jésus en Marc 1, puis les puissances naturelles se soumettent à l'autorité du Créateur. Quel est donc celui-ci? C'est qui peut avoir autorité sur la mer? Il y a juste Dieu. C'est là le questionnement des apôtres. C'est qui celui-là? Voici donc ce que Jésus vient de démontrer, bien plus que son autorité sur la nature. Il a démontré qu'il était Dieu. Parce que toutes les cultures anciennes étaient d'accord sur un point, seul Dieu était capable de contrôler la mer. Et la mer était un symbole de destruction indomptable, une puissance incontrôlable, et seul Dieu pouvait l'arrêter. Jésus est capable d'exercer cette puissance que Dieu seul possède. Les apôtres le savent, il y a juste Dieu qui peut arrêter la tempête. Puis lui, il vient de le faire en disant « Silence, tais-toi ». Ça se pourrait-tu que ce soit Dieu? Quel est donc celui-ci? Dans le psaume 107, versets 23 à 32, des marins percevaient la puissance de l'Éternel chaque fois qu'ils traversaient une tempête. Dans chacune de leurs circonstances, ils réalisaient qu'ils étaient tout petits et qu'ils appartenaient au Créateur, qui contrôlait toutes choses. Troisième raison pourquoi ce passage-là nous parle de la sainteté de Dieu, c'est à cause du reproche que Jésus leur fait. Puis le titre que j'ai donné, c'est « La foi dans la sainteté ». Comment n'avez-vous point de foi? Littéralement, c'est « Où est votre foi? » Ce n'est pas que les disciples n'avaient pas de foi, c'est qu'ils n'étaient pas, leur foi n'était pas en Jésus. C'est ça la vraie question. Vous savez que tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi, même un athée a la foi. Moi, je vous le dis, ça prend beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Tout le monde a la foi. Ce qui change, c'est l'objet de notre foi. Nous, l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Les disciples avaient la foi, mais pas en Jésus. Et où votre foi? Comment ça se fait qu'elle n'est pas encore placée en moi? C'est ça la question que Jésus leur pose. Mais comment je peux avoir la foi en un Dieu saint? Pourquoi placer ma foi dans la sainteté de Dieu? Eh bien, ce n'est pas compliqué. La sainteté de Dieu se manifeste dans la foi, puis dans la justice et dans son amour. Dans sa justice, il est obligé de condamner le péché. Mais dans son amour, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Mais dans sa justice, il est obligé. Comment donc trouver une solution? Parfait, condamnons Jésus-Christ. Moi, je peux placer ma foi en un Dieu saint, extraordinaire, différent de tout le monde, seul de sa nature, parce qu'il a trouvé la solution miracle pour que le pécheur soit pardonné sans qu'il soit condamné. Osée 11, verset 9, « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Notre foi dans la sainteté de Dieu nous sauve définitivement. » Les disciples ne comprennent pas encore l'œuvre de Jésus. Ils ont peur de périr, mais leur maître a une mission encore plus grande, aller mourir sur la croix. Et ça, c'est un Dieu saint qui lui a donné cette mission-là. Et quatrièmement, pourquoi voir la sainteté de Dieu dans ce passage-là? C'est la réaction des disciples. Ils craignirent d'une grande crainte. Je me suis amusé à regarder au travers de cette étude-là. Chaque fois que les gens sont confrontés, chaque fois qu'il y avait des hommes de Dieu étaient confrontés à la sainteté de Dieu, c'est toujours leur réaction. C'est la réaction normale que tout homme a devant la sainteté de Dieu, c'est de crainte. C'est la crainte. Je vous ai mis une liste. Abraham, Job, Manoah, Ésaïe, Gédéon, Josué, Ézéchiel, Daniel, Pierre, Paul, Jean. Confrontés à la sainteté de Dieu, ont tous eu la même réaction. Ils ont eu de la crainte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la sainteté de Dieu? Je prends les 5 dernières minutes qui restent pour que le fait qu'on appartienne à un Dieu saint ne reste pas seulement de la théorie. Qu'on ne connaisse pas juste maintenant la définition de la sainteté de Dieu ou les deux côtés de la médaille, mais qu'est-ce que ça doit changer maintenant dans notre vie? Apocalypse 15, 4, version Darby. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint? La sainteté de Dieu doit changer nos vies. Puis la meilleure façon, c'est de regarder la liste que je vous ai donnée tantôt, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes-là, devant la sainteté de Dieu? Comment ils ont réagi? Eh bien, premièrement, la première chose que la sainteté de Dieu doit faire dans nos vies, c'est de la crainte. Pas de la crainte d'avoir peur, pas cette crainte-là, mais un respect devant Dieu. Moi, plus jeune, je craignais mon père. Il avait juste besoin de me regarder, puis je savais que j'étais dans le trouble. J'avais la chance qu'il était en chaise roulante. Fait que je courais plus vite que lui. Fait que même s'il me regardait bizarre, je pouvais partir à la course, je n'étais pas dans le trouble. Mais je le sais un peu, c'est quoi quand même avoir cette crainte-là puis ce respect-là envers quelqu'un. Je n'avais pas peur, je le respectais. On doit avoir ce respect-là face à un Dieu qui est saint. Puis qu'est-ce que ça provoque dans nos vies? Bien, premièrement, la même chose que Josué en Josué 5, verset 15. Hein, Josué qui se prépare à aller conquérir Jéricho. Il regarde ça, puis il se dit, « Ouf, je suis dans le trouble. Comment je vais faire? » L'ange de l'Éternel lui apparaît. Puis l'ange de l'Éternel lui demande une seule chose. « Ôte tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. » La présence de Dieu a sanctifié le lieu. Et qu'est-ce que Josué a fait? Il a respecté. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel lui a dit? Il y a plein de choses à dire sur ce passage-là, mais pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est que Josué obéit à l'ange de l'Éternel. Et il a respecté l'ange de l'Éternel. Parce que le lieu sur lequel était un lieu saint. Abraham, en Genèse 18, verset 27, l'humilité d'Abraham devant un Dieu saint. On connaît ce passage-là. Oui, mais s'il y a tant de justes, vas-tu détruire Sodome et Gomorre? Parfait, je ne détruirai pas Abraham. Oui, mais... Des fois, on se dit qu'Abraham, il a poussé loin le bouchon. Hein? Mais Dieu est extraordinaire quand il agit avec. Mais ce qui est frappant dans ce passage-là, c'est l'attitude qu'Abraham a. Il s'humilie devant un Dieu saint. L'humilité dans nos demandes. Dieu n'est pas obligé de rien nous accorder. Il n'est pas obligé de rien faire pour nous autres. Mais nous, on est là, puis on demande, puis on exige. Là, Dieu fait ci, Dieu, faut que tu fasses ça, puis accomplis ci. Comme si on pouvait donner des ordres à Dieu. Mais Abraham a posé des questions. Abraham a mis des ultimatums à Dieu. Mais toujours dans l'humilité. Toujours dans l'humilité. Sachant que ce n'est pas lui qui décidait, mais que c'était l'Éternel, c'était celui qui était saint. Job, en Job 42, versets 5 à 6. Ce passage-là est extraordinaire parce que Job est contrit, il est brisé à l'intérieur parce qu'il a accusé Dieu d'injustice. Il a dit toutes sortes de choses fausses et mauvaises à l'égard de Dieu. Puis, lorsque Dieu se révèle véritablement à Job, il est brisé et contrit. Vous savez, on ne peut pas rendre Dieu coupable d'absolument rien dans nos vies. On est les seuls responsables de nos décisions et de nos choix. Ce n'est pas Dieu qui doit être coupable, c'est nous. Mais ayons à l'esprit, puis ayons ce sentiment-là de Job d'être brisé, d'être contrit devant Dieu. Parce qu'il est un Dieu saint. Gédéon et Manoah, dans le livre des Juges, leur réaction lorsqu'ils réalisent qu'ils sont devant Dieu, devant la sainteté de Dieu, c'est tout de suite, on va mourir. Pourquoi? Parce qu'ils se voient des pécheurs devant un Dieu saint. La sanctification. Le fait qu'on appartienne à un Dieu saint doit nous sanctifier dans nos vies. Nous devons résister au péché, nous devons dire non au péché, nous devons lutter contre le péché parce qu'on appartient à un Dieu saint. Vous savez, l'être humain a toujours tendance à se comparer avec un pire que lui. Là, je ne suis pas comme lui. Moi, je ne suis pas comme M. Thibault, je n'empoigne pas de ticket. Puis quand j'empoigne, je ne me bats pas avec le policier. Non, mais c'est facile quand on se compare avec quelqu'un d'autre qui est... Bon, je vais arrêter parce que moi, je suis en train de... Mais si on se compare avec Dieu, c'est qui le plus petit entre moi et Dieu? C'est clair que c'est moi, là, je ne gagne pas. Et c'est ce que Gédéon et Manoah ont vécu. Ils se sont vus comme des pécheurs terribles, épouvantables, en se compare avec Dieu. C'est ce que la sainteté de Dieu doit faire dans notre vie. On appartient à un Dieu qui est saint, qui n'a pas de mal, qui est pur, qui est unique. Je dois combattre le péché. Je ne dois pas tomber dans le péché. Je dois lutter contre le péché. Je ne dois surtout pas aimer le péché. Parce que Dieu est saint et c'est mon Père, c'est mon Seigneur. Ésaïe 6, 5, après avoir entendu un saint, saint, saint. Seigneur pose une question. C'est qui je vais envoyer dans ma mission? Ésaïe lève la main et dit, « Je vais y aller. Je vais y aller te servir. » Le service pour le Seigneur. Ce passage met l'accent sur un pécheur qui est pardonné puis qui ensuite est poussé à servir puis à faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est saint. C'est ça qui a poussé Ésaïe à vouloir servir Dieu. Il était confronté au Dieu saint, saint, saint. C'est qui veut me servir? Ésaïe a levé la main. Rapidement, Ézéchiel et Jean, Ézéchiel 1, 28, Apocalypse 1, verset 17. Ça nous montre une humble soumission devant la majesté divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut accepter les plans de Dieu pour nous. Vous savez, moi, je n'ai plein de plans dans la vie. Bon, ma femme en décide une bonne partie, là, mais j'ai quand même plein de plans dans ma vie. Et le seul qui décide de mes plans, c'est Dieu. Puis je dois me soumettre. C'est ce qu'Ézéchiel et Jean ont fait. Une humble soumission devant les plans de Dieu. Daniel dans la fosse aux lions, ses trois amis dans la fournaise ardente, Étienne lorsqu'il est lapidé, ces trois passages ont tous un point en commun. Ils ont tous vu Dieu et ils ont persévéré dans l'épreuve. Comment Daniel a pu résister dans la fosse aux lions? On est allé au Cambrochet l'année passée, puis on est allé visiter un zoo, puis il y avait un lion qui était à deux pieds de nous autres. Là. Il y avait une clôture, deux clôtures qui nous séparaient. Puis un coup, il a rugi. C'est pas le fun. Moi, j'étais pas là. Il y en a qui nous l'ont compté, mais c'est assez effrayant. Là, Daniel, il est... Vas-y avec les petits minous. Comment il a résisté? Comment il a passé au travers de cette épreuve-là? Comment ses trois amis dans la fournaise ardente, comment Étienne, lorsqu'il est lapidé, peut lever les yeux au ciel et s'endormir paisiblement? Parce qu'il a vu Jésus debout à côté du trône de Dieu. Ce passage-là, il me fait frémir parce que partout la Bible nous dit que Jésus est assis sur le trône. Mais quand un de ses enfants souffre, il se lève pour venir à son secours. Un Dieu saint nous aide et nous encourage, nous fortifie à passer au travers de l'épreuve et des persécutions. Pierre, en Luc 9, verset 33, la transfiguration, qu'est-ce qu'il fait? On va bâtir trois tentes. Littéralement, trois tabernacles. On fait lien avec l'Ancien Testament, c'était pour adorer. Puis qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Jésus reste là seul. Parce qu'il y a juste lui qui mérite l'adoration. Pierre, devant un Dieu trois fois saint, devant un Dieu d'une nature aussi extraordinaire et poussée à l'adoration. Et finalement, je vous laisse avec Paul, acte 9, versets 4 à 9, suite à sa conversion, et la lumière qui est éclatante qui est là. Paul pose une seule question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Mais tu sais, laisse-moi finir mon travail, laisse-moi finir mon émission de télévision, laisse-moi finir telle chose, laisse-moi finir mes vacances. Puis après ça, il va me rester un peu de temps, là, puis un peu d'argent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La sainteté de Dieu doit nous pousser à un engagement, à un don de soi-même, à un sacrifice pour le service, comme Paul a fait. Désolé d'avoir pris 5 minutes de plus de votre temps, mais que la sainteté de Dieu puisse changer nos vies, que ça ne reste pas juste de l'intellectuel, que ça ne reste pas juste de la théorie, mais que ça puisse sincèrement faire quelque chose dans nos vies de pratique. Je termine par la prière. Père céleste, Seigneur Dieu, on est tout d'abord extrêmement reconnaissant parce que tu as accepté de mourir sur la croix, tu as accepté de donner ta vie, tu t'es révélé à chacun d'entre nous, tu as révélé qu'on était des pécheurs, tu es venu nous chercher pour nous amener auprès de toi. Merci Seigneur également pour cette révélation, pour ta parole, merci pour ce passage de Marc, merci d'avoir calmé la tempête. Pour qu'on réalise quel est donc celui-ci. Un Dieu saint, un Dieu unique, d'une nature extraordinaire, d'une nature transcendante. Mais que cette sainteté, Seigneur, toi seul qui es saint, 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 ça puisse changer chacune de nos vies. Que ça puisse nous motiver à te servir, à s'engager, à t'obéir, à résister au péché, à te respecter, à s'humilier, à changer nos demandes, à aller de l'avant vers toi, avec toi pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, je te remercie pour l'assemblée du Cap ici. Merci pour leur restauration. Puis je te demande de les bénir, de continuer à les faire grandir. Mets ta main sur les membres, sur la direction. Et que tu puisses, Seigneur, les accompagner dans leur travail qu'ils accomplissent pour toi. Dans le nom précieux de notre Sauveur. Amen.